N'ayez pas peur, aucune mauvaise onde d'en toucher terre, simplement une chouette effraie l'un des plus beaux habitants de nos campagnes. Son ramage ne se rapportant pas à son plumage, elle a hérité d'un nom assez injuste, alors que l'on aurait pu mettre en avant, par exemple, son célèbre disque facial en forme de cœur. Celle que l'on surnomme la Dame Blanche était dernièrement au cœur des attentions du club CPN de Saint-Lubin-de-la-Haye, dans le nord du département. Je vous parle des chouettes renards, c'est le nom du club, depuis quelques numéros déjà, et il était grand temps que vous fassiez la connaissance des enfants et de Pierre Bresson, créateur du club. Je vous parlais en début d'émission de donner du temps. Eh bien Pierre ne compte pas le sien. Il anime avec une grande générosité, se forme à la nature et ses secrets, et partage sa passion avec les enfants, mais aussi, vous le verrez, avec leurs parents. Le 30 novembre dernier, les chouettes renards avaient une mission. Poser le nichoir à chouettes effraies qu'ils ont fabriqué avec l'aide de l'association Athéna 78. La pose avait lieu chez des agriculteurs de la commune, Monsieur et Madame Le Guillou. Ces derniers ont accueilli avec beaucoup de gentillesse les chouettes renards, leurs parents et les deux reporters que Simon et moi étions ce jour-là. Mais avant de passer aux grands travaux, quelques explications s'imposent. Nous les devons à Dominique Robert, président de l'association Athéna 78, une véritable force de et pour la nature. Je vous l'ai dit, les ornithologues ne demandent qu'à partager leur passion. Vous fallait-il une preuve ? La voici.
Athéna 78, ça veut dire d'abord terroir et nature en Yvelines. Donc c'est un acronyme. Alors Athéna 78, c'est pas non plus par hasard, c'est un petit clin d'œil justement à la chouette chevêche. Donc c'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, mais la chouette chevêche, elle s'appelle Athénée Noctua, donc de son nom latin. Et donc on a fabriqué un acronyme pour l'association qui protège de longue date la chouette chevêche. Alors pour revenir à la chouette effraie, aujourd'hui, le nichoir, ça va être le 134e du nom. Ça veut dire que l'on protège la chouette effraie depuis 26 ans. On a commencé en 1993 en pays oudanais. Donc là, nous nous situons en pays oudanais, sachant que la communauté de communes du pays oudanais est à cheval sur le département des Yvelines et le département de l'Eure-et-Loire. Voilà, donc ça nous amène, ce découpage administratif, à venir opérer en Eure-et-Loire, en limite de notre secteur d'activité prioritaire qui sont les Yvelines, mais avec beaucoup d'intérêt aussi pour ces communes-là. La chouette effraie, une sacrée paroissienne, parce qu'en fait son nom c'est l'effraie des clochers. Voilà, on a un réseau de sauvegarde de la chouette effraie. Partout il y a une tache verte, ça veut dire que partout il y a un nichoir pour la chouette effraie. Et lorsque, sur la tache verte qui marque l'emplacement de la commune, il y a une petite église, eh bien ça veut dire que le nichoir est dans le clocher. Et on est à 60% dans les églises, 30% chez les agriculteurs. Donc il reste 10% dans les centres équestres et chez des particuliers dans les greniers. Donc en priorité dans les clochers, parce que cette chouette, les frais des clochers, elle est dans sa place parce que c'est un bâtiment élevé, facile d'accès. Et puis dans les bâtiments agricoles, on pourrait dire que l'agriculture a joué un rôle important dans l'extension géographique de l'aire de la chouette effraie. Depuis que l'homme est agriculteur, donc depuis le néolithique, la chouette effraie qui vivait dans les cavernes, qui vivait dans les grottes, qui vivait dans les éboulis rocheux, mais quand l'homme est devenu agriculteur et qu'il a construit les bâtiments, qu'il a construit les maisons pour cultiver la terre, il a aussi édifié des greniers pour garder les réserves d'une année sur l'autre, eh bien la chouette effraie s'est déplacée. Et la chouette effraie est venue s'installer dans les greniers, dans les parties hautes, etc. Ensuite, avec le défrichage de la forêt, c'est une chouette qui ne vit pas en forêt, donc ça c'est important de le rappeler, elle n'est pas en forêt. Hein, si votre maison est proche d'un bois et que le soir vous entendez... Bon, ça c'est la chouette hulotte, elle vit dans la forêt. C'est pas le milieu de vie de la chouette effraie. Donc elle est dans les espaces ouverts et elle va rechercher les bâtiments. Toujours les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Donc voilà, donc on est sur un réseau de protection où on essaye d'impliquer les élus. Donc chaque fois qu'on est dans un clocher, ça veut dire que chaque fois l'élu, le conseil municipal, a apporté son accord. Et ça fonctionne très bien, hein, sans salissure. Parce qu'évidemment, quand on installe un nichoir dans un bâtiment public, ça peut être une église la plupart du temps. On est à côté de Houdan. À Houdan, c'est dans le donjon de Houdan, voilà. Eh bien, le nichoir est plaqué contre l'ouverture, contre le grillage. C'est-à-dire qu'on garantit absolument aux élus qu'il n'y aura pas de chouette à aller ailleurs que dans une boîte close, fermée. Ça, c'est très important. Hein, il y aura aucune crotte, aucune déjection sur la cloche, dans les combles, etc. Parce qu'elle n'aura pas accès. Elle rentrera dans le trou d'entrée qu'on voit là et elle sera dans un espace fermé. Et elle ne pourra pas aller ailleurs que dans la boîte. Donc ça, c'est très important pour nous de bien expliquer aux élus comment on pose le nichoir. Les clochers sont grillagés à 90% partout à cause des pigeons. Voilà, et donc il n'est pas question de faire rentrer la chouette effraie qui va faire des déjections alors que le clocher est déjà grillagé à l'encontre des pigeons. Donc voilà pour la façon d'installer les nichoirs dans les clochers.
Merci à Dominique Robert de l'association Athéna 78 pour cette introduction généreuse et pédagogique dans une ambiance que vous devinez chaleureuse. Après cette entrée en matière, le nichoir est apporté dans le séchoir qui l'accueillera et dans lequel notre petit groupe est réuni. Mais au fait, pourquoi ici ? La parole est à nos hôtes, monsieur et madame Le Guillot.
Régulièrement dans le séchoir, ils nichaient tous les ans ces oiseaux. Au moment de la mise en route du séchoir, ça m'est déjà arrivé de sortir des petits qui étaient dedans. Et puis un peu, j'ai dit, moi, il faut que je mette mon séchoir en route. Hein. Alors, je les mettais un peu à droite et à gauche, hein, comme la nature le pouvait. Hein. Donc, tous les étés, on entend la chouette, le fameux cri de la chouette effraie. C'est un chouintement. Hein. Il y en a déjà très peu. Et c'est vrai que sur le haut de mes silos, quand je les reprends au printemps, eh ben, je rencontre des pelotes, il y en a plein sur le dessus. Alors on les décortique et puis il y a des petites souris, des petits os dedans. Donc pour moi ça m'est utile parce que les souris à la ferme, on en est envahis. Voilà.
Ça nous a semblé vraiment intéressant, sachant qu'il est fait par les enfants de notre école, donc c'est encore mieux. Exactement, donc ça c'est plutôt sympathique. Et du coup c'est moi qui vous remercie, enfin nous vous remercions, parce que c'est vous qui nous avez remercié en arrivant, mais quand même, vous avez fait un beau projet. Ce nichoir va se tenir sur le mur, là, c'est ce qu'on avait vu, pour vous indiquer un petit peu déjà.
Les chouettes renards entrent dans l'arène, guidés par leur chef bienveillant Pierre Bresson et toujours par Dominique Robert qui vous dit tout sur la chouette effraie et son deux pièces.
Début septembre, des enfants du club des chouettes renards, ils ne sont pas encore tous arrivés, mais on peut les citer, hein, Axel, Mathéo, Clément, il y avait Jeanne, Anaël, qui avait d'autres, Maïli. Donc voilà, c'est tous des enfants de l'école de Saint-Lubin. Alors, sous le patronage, le haut patronage de l'association Athéna 78, parce que sans eux, ça ne serait pas possible. On n'a pas les compétences, on ne sait pas faire. Et ce sont eux qui ont eu l'immense bienveillance de nous accueillir à l'occasion de leur rentrée. Ils nous ont délégué Jean-Luc, qui a pris en charge le montage des enfants. Au fur et à mesure de la journée, les adultes ont quand même pas mal aidé. Parce qu'il faut bien imaginer que les enfants, au bout d'un moment, ils ont lâché prise, ce qui est normal. Mais ils ont bien bossé. Et puis par la suite, ils ont fait la personnalisation. Ça, c'était hyper important de mettre une trace. Parce que je pense que c'est un beau travail qu'ils ont fait et ils peuvent en être fiers. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis chez Monsieur Le Guillou, qui va devenir parent. On va laisser faire la nature, on lui c'est donne ça. Un petit coup de main, et oui. Puis le reste, on croise les doigts.
Alors, on va faire venir les constructeurs. Où sont les constructeurs ? Allez.
Allez, venez.
Allez, les fabricants, là. Par où rentre la chouette ? C'est quoi son trajet ?
Par le trou.
Et alors, après, qu'est-ce qu'elle va faire ?
Elle va rentrer, elle va soit partir de ce côté-là, ouais. Soit de ce côté-là.
Voilà. Et alors pourquoi il y a un deux pièces ?
Elle peut faire deux nichés.
Donc la chouette effraie, alors on va dire la femelle d'abord. Hein, la femelle, c'est là en bonne condition. Donc c'est là très bien mangée. C'est là en pleine forme. Elle fait d'abord une première ponte, donc elle pond des œufs. Elle pond des œufs vers le mois d'avril. Elle couve ses œufs 30 jours. Ensuite, pendant qu'elle couve ses œufs, le mâle la nourrit, la mâle la ravitaille. Ensuite, les bébés vont naître. La femelle, elle va rester sur ses poussins pendant à peu près 12-15 jours. Parce que les poussins, ils sont très petits, ils n'ont pas beaucoup de duvet, et la femelle, elle leur apporte la chaleur nécessaire. Pendant ce temps-là, le mâle nourrit la femelle et les poussins. Et à un moment donné, les poussins grandissent encore un petit peu. Quand ils sont à peu près 20-25 jours, la maman, la femelle, elle se met à chasser avec le mâle. Les deux parents nourrissent les poussins. Alors ça dure encore quelques semaines. Et puis si la femelle est en très bonne forme, à ce moment-là, elle est capable de répondre une deuxième fois. Et ça, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, c'est-à-dire c'est quand même difficile. Donc ça ne se produit pas tous les ans. Et ça, ça se produit quand ? Eh bien, ça se produit quand il y a beaucoup de nourriture. Alors maintenant, c'est à vous de parler. C'est quoi la nourriture de la chouette effraie ?
Les mulots, les souris, les campagnols.
Alors les campagnols, c'est très important de les citer, parce que les campagnols, ils ont une capacité à se reproduire incroyable. C'est-à-dire que un papa et une maman campagnole, qui se retrouvent au mois de mars, donc à la sortie du printemps, un couple est capable de générer 100 petits au mois d'octobre, au mois de novembre. Et ça, ce qui est extraordinaire chez la chouette effraie, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de nourriture, elle-même, elle est capable de faire 2 lichés, donc de pondre 2 fois plus 2, d'élever 2 fois plus de jeunes, qui, l'année d'après, vont être là pour manger des campagnols. Donc c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire cet oiseau-là, alors nous on l'a baptisé une éponge. Une éponge. Une éponge, c'est-à-dire, c'est juste un mot pour dire qu'elle a une capacité à tout de suite absorber l'évolution de la nature. S'il y a beaucoup de campagnols, très très vite, la femelle, elle réagit. Et elle produit plus d'œufs, plus de bébés, et le couple élève plus de jeunes. Voilà. Et ces jeunes-là vont manger plus de campagnols l'année suivante. Donc c'est une façon de réguler par la nature l'excès de petits animaux qui crée des dégâts dans les cultures. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une alliée des agriculteurs et elle a vraiment un rôle et une place vraiment très très importante. Donc c'est un prédateur. Un prédateur, ça veut dire que ça attrape des petits animaux vivants. Voilà, elle se nourrit de petits animaux vivants. Donc c'est la chouette effraie. Donc on revient à notre nichoir. On lui fabrique 2 chambres parce que lorsque les bébés ont à peu près 40 jours, la femelle change de côté. Elle va dans la case à côté et là, elle est tranquille pour à nouveau pondre. À nouveau couvé, encore 30 jours. Pendant ce temps-là, le mâle, qu'est-ce qu'il fait ? Il nourrit sa femelle et il nourrit les jeunes de la première nichée. Voilà. Et puis tout se passe bien. À un moment donné, la première nichée, elle s'envole, elle prend son indépendance. Et puis après, le couple, il continue à élever la deuxième nichée dans la case à côté. Donc voilà. Donc nos nichoirs, ils sont adaptés aux très bonnes années. Ça ne se passe pas tous les ans. Voilà. Mais aux très bonnes années, le nichoir peut accueillir la même année. Hein, 2 nichées successives.
Un petit mot sur les campagnols. Ici, c'est d'autant plus que ici, l'exploitation, je ne laboure plus les champs depuis 1996. Donc, c'est les campagnols me donnent des fois des cheveux blancs. Voilà. J'ai énormément de campagnols. Pour quelle raison ? Le fait qu'on passe un outil, la charrue, dans les champs, détruit systématiquement les campagnols. Tous ceux, les gens, les agriculteurs qui labourent, ça retourne la terre et systématiquement, quand j'étais jeune, j'ai labouré et on voit régulièrement, des fois, on voit de la paille et tout ça et hop, les campagnols sortent. Bah, ça y est, on a détruit le nid et c'est fichu pour eux. Et généralement, ils nous laissent tranquilles, ils ne nuisent pas à la culture qui est en place. Et le fait de plus labourer, eh bien, ils nous font des ronds et des ronds qui se multiplient par dizaines, voire par des fois par centaines sur un linéaire de 500-600 mètres.
Sur du blé.
Principalement du blé et du colza. Et du colza. C'est les deux cultures appétantes. Ouais. L'escourgeon un peu moins. L'escourgeon, c'est l'orge d'hiver. Un peu moins, mais le blé et le colza. Voilà. Alors donc, si l'hiver n'est pas trop rigoureux pour la chouette, pourvu qu'elle prenne les campagnols.
Ça, à quoi ça sert ?
Bonjour.
Et qu'est-ce qu'on regarde ?
S'il y a des bébés.
Eh ben voilà. Donc là, on va l'installer.
On vient une première fois fin juin. Première chose, on ferme le nichoir. Parce que quand on arrive, on peut toujours tomber sur un couple en retard. On vient à une date où on espère que tous les poussins sont nés. Mais si c'est un couple qui est en retard, eh bien la femelle peut être en train de couver. Donc ça, c'est très dangereux. Si jamais on ne fermait pas et qu'on se permet, on va dire, d'ouvrir une petite trappe pour regarder, la femelle est sur ses œufs, paf, elle se sauve et elle s'en va, elle s'envole et elle part pour on ne sait pas combien de temps, peut-être pour plusieurs heures. Si elle abandonne ses œufs pendant plusieurs heures, ils se refroidissent et les embryons qui sont dans l'œuf risquent de mourir. Donc ça veut dire qu'on a fait de grosses bêtises. Alors donc, la première chose, c'est quand on arrive, on ferme la trappe. Après, on inspecte. La première chose que l'on regarde, c'est quel âge ont les poussins. Donc déjà, on entrebâille. On regarde avec une petite lampe. Est-ce qu'il y a un adulte ? Et quel âge ont les poussins ? Alors, si les poussins sont en bas âge, par exemple, on tombe sur une ponte en train d'éclore. Imaginons. Ça veut dire qu'il y a quelques œufs et quelques bébés tout petits, tout roses, juste à côté. Alors là, danger. Il faut absolument que la femelle se remette sur eux parce qu'ils ont besoin d'eux pour leur chaleur. Troisième cas, on avance dans la maturité des poussins. Eh bien, on tombe sur les poussins de 25 jours, 30 jours, 40 jours. Pas de problème. La plupart du temps, la femelle n'est plus avec eux. Elle est partie ailleurs. Par exemple, dans les bâtiments ici, elle va dormir sur une poutre. En gros, on se dit, pour être tranquille, c'est-à-dire, là les parents vont sourire, c'est qu'elle a besoin d'être tranquille, parce que la nuit, elle les nourrit, elle a besoin d'être tranquille le jour, et en gros, comme les bébés sont un petit peu turbulents, et qu'ils leur demandent la nourriture et qu'ils chuintent, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, là, eh bien, ils vont être en train de la solliciter. Donc les deux adultes, les deux parents vont dormir ailleurs dans les bâtiments, dans un petit coin sombre. Comme ça, ils se reposent tranquillement pour pas que leurs jeunes viennent leur casser la tête pendant la journée. Alors là, on en attrape un, le plus grand, et on l'examine, on lui donne un âge. Voilà, et on les compte et on referme. Ensuite, on ne revient pas avant le 10 septembre, mais on recommence. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a eu un été torride, exceptionnellement chaud. Eh bien, dans les bâtiments ruraux, pas loin des toitures, plus on monte vers la toiture et plus il fait chaud. Et donc on a eu sept pontes abandonnées. Donc on peut supposer que la chaleur a eu un impact. On pense que c'est ça la cause de l'abandon. Donc il y a des mauvaises nichées, notamment les deuxièmes, qui peuvent tenir au fait que l'été est très très chaud. Voilà. Là ce qu'on va faire, on va mettre deux échelles en place, côte à côte, à peu près en se mettant à peu près au milieu justement. Et puis le nichoir, on va le suspendre sous la charpente, avec des fils de fer et avec des câbles. Un trou là, on passe un fil de fer, un autre trou là, un trou là, on passe un fil de fer, on accroche.
C'est dur de tendre un fil de fer.
Non, tu vois pas le trou ?
Je vois le trou, mais j'arrive pas à le faire passer dedans.
Ta tête est trop grosse.
Est-ce que tu le vois, le fil ? Vas-y.
Pousse dessus.
Vas-y. Allez, c'est parti.
C'est bon.
Tiens, attends, il faut ouvrir la trappe. Voilà. Par contre, du coup, c'est pas les enfants qui montent sur les échelles à 4,50
m. Alors, il y a des.
Les roses, là, c'est qui ça ?
Il y a les adultes bricoleurs, là, faut attraper l'échelle là-bas.
C'est qui ?
Adultes bricoleurs.
Il y en a un qui va monter ici, un autre qui va monter sur l'autre échelle là, donc les deux échelles sont écartées comme ça, pour pouvoir monter avec le nichoir. Et le nichoir, on va l'attacher avec ici là, mais il faut d'abord faire des trous dans les chevrons. Hein, on va passer le câble dans le chevron. Voilà.
Donc, on peut pas avoir le vertige là.
Oh non, là c'est pas un problème de vertige là. Ah. Non, on sait pas où là.
On est à combien là, à peu près ?
5 mètres. Cheminée de chauffage urbain. 125 mètres. Pour installer
c'est
un nichoir. Ouais, pour installer un nichoir, il faut qu'on graisserait.
Vous l'aurez compris, la pose du nichoir nécessite de solides gaillardes et gaillards, pas ou peu soumis au vertige. Les enfants sont donc restés les pieds sur terre et moi j'en ai profité pour promener mon micro. C'est d'abord vers Pierre qu'une blessure au doigt empêchait de jouer les acrobates que je l'ai tourné. Il nous raconte la belle aventure des chouettes renards.
Alors les chouettes renards, on a démarré il y a un peu moins d'un an sur la base en fait d'un petit groupe d'amis de mon fils et de sa classe. Aujourd'hui, ça commence à s'élargir. On essaye de multiplier les sorties, mais c'est pas toujours évident parce que les enfants, ils sont sollicités. Ils ont foot, ils ont danse, ils ont tennis, ils ont tout plein d'activités. Le but, c'est de toujours rappeler qu'il y a une activité qui est très importante pour leur épanouissement et pour leur enrichissement et leur implantation aussi dans le village parce qu'ils sont ici un peu par hasard tous. Il n'y a pas d'enfants qui sont là depuis des générations et finalement c'est un moyen de les territorialiser. Et donc ce groupe, il est né, il essaye de grandir et puis il y a un moment pour grandir, il y a des étapes. Ces étapes, elles ne sont pas toujours faciles parce qu'il faut que les gens s'impliquent. C'est pas toujours évident, on n'est pas des professionnels de la nature et donc on peut compter par exemple sur l'apport d'associations qui sont elles spécialistes et qui sont dévouées depuis des années. C'est le cas de Dominique et d'Athéna 78 et puis je pense qu'eux ils ont à cœur de leur côté à ce que des petits, des jeunes viennent parce que ce sont les futurs adhérents de ces associations de protection et de défense de la nature et donc plus ils commencent tôt, plus ils sont sensibilisés.
Alors justement, Pierre, vous disiez que vous n'êtes pas des spécialistes de la nature. Moi, je pense aux gens qui nous écoutent et qui se disent ben, « Moi aussi, pourquoi pas, si je veux créer mon club CPN ?» Alors comment on fait quand on ne se sent pas spécialiste pour ben, se lancer quand même ?
Alors quand on n'est pas spécialiste, du moment qu'on a l'envie, qu'on a la passion un peu de temps malgré tout à se donner, maintenant le temps on trouve toujours. C'est-à-dire que son temps on choisit de le mettre, et là en l'occurrence bah, j'ai choisi pour mon fils et puis pour ses copains d'y consacrer un peu de temps. Finalement il ne faut pas grand chose en fait, on a tous un petit bagage de connaissances.
Et puis on peut apprendre.
On peut apprendre. Moi, je me suis inscrit à un MOOC ornithologie et puis je me fais aider encore une fois d'Athéna qui va me donner un coup de main. Mais en fait, il faut compter sur la bienveillance d'associations et puis soi-même. On peut, de toute façon, du moment qu'on a envie, le reste, les enfants n'attendent pas des connaissances académiques. Nous, on est là pour allumer... on va dire un feu. Ce qu'on y met dans ce feu, c'est un peu de curiosité, un peu de...
C'est une attitude par rapport à la nature.
C'est une attitude. Ça ne peut pas durer 2 heures. On n'est pas là pour leur faire une conférence académique. Mais pour autant, ça, c'est des moments qui comptent, dans le sens où ils sont sensibilisés. Ça, c'est la première chose. Et quand on est sensibilisé, derrière, on a envie de connaître. Et là, on va aller vers la connaissance. Nous, on leur montre juste qu'en fait, près de chez nous, il y a des sources de découvertes qui sont extraordinaires. Et dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, ils auront trouvé que peut-être leur truc, c'est l'entomologie, c'est l'ornithologie, c'est la botanique. Ça peut être plein de choses. Ce sera ce qu'ils veulent en faire. Le but aujourd'hui, c'est de leur montrer que même dans nos paysages qu'on qualifie pas forcément d'extraordinaires, on n'est pas dans un parc national, on n'est pas dans ces fabuleuses images qu'on voit, mais quand on se lève le matin de bonne heure, des belles images, on peut en voir.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci. Merci, Émilie.
Et les enfants, alors ? Ce sont eux les acteurs principaux de ce club « Connaître et protéger la nature ». Ils nous le présentent avec leurs mots et sans montage, ou si peu.
Alors les enfants, est-ce que je peux vous déranger un tout petit peu ?
Oui.
Je voudrais que vous me disiez ce que c'est que les chouettes renards. Qu'est-ce que vous faites ?
On aide les chouettes et on les soigne.
Et je crois que vous avez rencontré une chouette il y a quelque temps.
Oui,
vous vous souvenez de ça ?
Le bagage des chouettes.
Alors c'est quoi ?
Le bagage des chouettes, c'est quand on bague les chouettes pour savoir quand elles sont nées et pour les reconnaître. Et une fois, on est allé voir plein d'autres oiseaux qui avaient plein d'autres chouettes. À Rambouillet, au centre de soins. Et ben, la prochaine fois, on va faire une sortie ornithologique pour les oiseaux avec un vrai ornithologue. On aide la nature, on fait des balades dans la nuit.
Dans la nuit ?
On avait invité plein de personnes. On a fait une balade en forêt.
Est-ce que c'est facile de marcher la nuit ?
Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. Et on a vu des vers luisants.
Oui. Ça vous a pas fait peur la nuit ?
Non, si un peu moi. Une fois, on est allé se balader en forêt, mais le jour.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu ?
Des champignons.
C'est quoi ton oiseau préféré ?
Un aigle.
T'en as vu déjà ?
Oui. Moi, c'est un rouge-gorge.
Et tu en as vu aussi ?
Oui. Bah, dans mon jardin, moi, j'en vois beaucoup des rouges-gorges. Moi, mon grand-père, il adorait les rouges-gorges.
Il adorait les rouges-gorges, c'est vrai ? Et toi aussi, alors ?
Oui, beaucoup.
Moi, mon oiseau préféré, c'est le chouquet des tours.
Et est-ce qu'il y en a ici ?
Et moi, j'en ai déjà vu un.
Alors, qu'est-ce que tu aimes chez ces oiseaux ?
Bah, j'aime bien leurs couleurs. Je trouve qu'ils sont très jolis. J'aime bien leur bec aussi. Nous, on en a déjà reçu un dans notre maison parce qu'il était blessé. Du coup, on l'a relâché. Et puis, il allait mieux. Et à la dernière sortie, c'était la construction du nichoir.
Ouais.
On est parti des planches jusque au nichoir.
Alors, comment vous avez fait ? Parce que ça m'a l'air compliqué.
On a pris des planches, on les a vissées entre elles, on a fait les portes. Ma sœur a fait de la scie sauteuse pour couper les portes. Et du coup, on les a mis dedans.
Et après, on a fabriqué le nichoir.
Oui, après il était terminé.
Fait une sortie où on allait plâtrer des empreintes. On allait les mettre du plâtre dans un bout en plastique chic dans la terre. Et on a récupéré les empreintes.
Et vous avez des empreintes de quoi alors?
De cerf.
De cerf.
Comment est-ce que vous faites pour les reconnaître?
On avait
un guide peut-être.
Un petit guide, oui, et on pouvait laver des fiches transparentes, on la mettait, et on voyait que c'était soit un cerf, soit une biche.
Et on avait même vu un sanglier. Oui, quoi.
Bon, alors vous allez continuer les chouettes renards, ça vous plaît?
Oui,
c'est trop bien.
C'est trop bien. Oui. Bah pourquoi c'est trop bien?
Parce que, bah, en même temps on apprend et en même temps on s'amuse un peu.
Bientôt, je crois qu'on va faire une sortie.
Mais ça sera avec un vrai ornithologue.
De vrais petits CPN, comme dirait le créateur des clubs dans les années 70, Monsieur Pierre Déhomme, par ailleurs créateur du journal le plus lu dans les terriers, La Hulotte, qui m'a accordé, souvenez-vous, une interview dans le deuxième numéro de Touche et Terre, c'était au mois d'octobre. Des clubs CPN répartis désormais sur tout le territoire, qui permettent à des enfants, comme les chouettes renards, de découvrir la nature et ses trésors. Mais pas seulement les enfants. Qu'en disent les mamans?
Là, je vous dérange un tout petit peu. Ben, pour vous demander, voilà, les chouettes renards, ce que vous en pensez, vous, puisque ça apporte à vos enfants.
Ça apporte beaucoup de choses. Ça leur fait découvrir leur milieu qui les entoure, et notamment de protéger un peu la nature. Et ils n'ont pas conscience forcément de ce qui est à côté d'eux. Et du coup, ils apprennent drôlement de choses, et nous aussi.
Moi, c'est le descotch un peu de la télé, des jeux vidéo, et je trouve ça assez super qu'ils puissent se rendre compte de ce qui l'entoure réellement, voilà.
C'est un partage, hein. C'est être tous ensemble, vraiment, ils apprennent pas mal de choses. Donc on n'a pas vraiment l'occasion, nous, on n'a pas le temps en général chez nous de le faire. Et là au moins, ils sont tous ensemble, ils écoutent et ils apprennent beaucoup de choses. Donc c'est super.
Et je tenais à rajouter, je tire mon chapeau à Pierre qui nous permet de vivre ça pour les enfants et pour nous. Et c'est un moment convivial et ça leur permet aussi peut-être plus tard de changer leur regard sur ce qui les entoure.
En parlant de changer leur regard, est-ce que vous avez déjà, le groupe est tout récent, mais est-ce que vous avez déjà quand même senti un petit changement dans leur attitude par rapport à la nature?
Oui, parce que rien que récemment, moi je me promène beaucoup, j'ai des chiens, et quand je me promène avec Mathéo, maintenant on est obligé d'emmener un sac poubelle pour ramasser les déchets qu'on rencontre. Et du coup, parce qu'il me dit si les animaux ils les mangent ou autre, c'est pas bon pour leur environnement. Donc du coup, voilà, on fait des ramassages nature.
Mon fils, c'est pareil, hein. Quand il voit un papier, il dit « Oh maman, c'est pas bien !» Et puis on ramasse, et on a toujours quelque chose pour ramasser, et on fait toujours attention à ça, donc c'est pareil.
Bon, on regrette qu'il n'y ait pas trop de papa.
Voilà,
qui nous accompagne.
Moi, dans le quotidien, oui, la consommation d'eau. Il va penser à éteindre le robinet, éteindre les lumières, enfin oui, il change de regard par rapport à ça, et surtout sur les déchets. Aussi. Tout ce qu'on peut faire, on peut recycler, on peut faire plein de choses.
À la maison, ça, aussi, on a installé, je crois Christine aussi et moi, on a installé une mangeoire pour les oiseaux pour l'hiver. Parce que c'était primordial de nourrir les petits oiseaux qui nous entouraient. Voilà.
Est-ce que c'était à l'origine des sujets peut-être qui vous intéressaient ou qui intéressaient vos enfants ou pas forcément? Peut-être qu'au départ, il a fallu oser un petit peu s'intéresser à ce genre de choses?
Alors, pour moi, personnellement, je travaille déjà dans le milieu vétérinaire, donc je suis très intéressée. Voilà, je suis surtout sur chiens et chats, mais le reste m'intéresse beaucoup. Ouais.
Moi, j'avais une sensibilité par rapport au sujet sans vraiment la pratiquer non plus. Et je change d'attitude et je change aussi beaucoup les choses avec Clément, en fait. Et à travers le regard des enfants, on s'aperçoit qu'ils ont des idées beaucoup plus simples que nous et faut vraiment les écouter, faut vraiment être avec eux et puis avancer avec eux.
Pareil, nous, on a des poules, donc du coup, alors on est très bio, on commence à être vraiment à faire attention à ça, à la nature, à ce qu'on mange. Donc du coup, tout ça fait permettre de continuer et apprendre toujours. On apprend tous les jours. Donc, grâce
Pierre nous en apprend beaucoup. Voilà. Je suis impressionnée de son savoir.
Et pendant ce temps-là, Dominique et les valeureux poseurs du nichoir n'ont pas chômé. Le nichoir a trouvé sa place en haut de la grange.
Et ben ça y est, c'est en place.
Bravo.
Super. Ouais. Bravo.